Chapitre 21. Salvor Hardin ne se rendit pas directement sur la planète éponyme du royaume d'Anacréon. Il n'y arriva que la veille du couronnement, après quelques visites éclairs dans 8 des principaux systèmes stellaires du royaume, où il ne s'arrêta que le temps de s'entretenir brièvement avec les représentants de la Fondation. Au terme de ce voyage, il demeurait écrasé par l'immensité du royaume. Ce n'était qu'un grain de poussière auprès de cet empire galactique dont il avait jadis fait partie. Mais pour quelqu'un qui était habitué à ne penser qu'à l'échelle d'une planète, et d'une planète faiblement peuplée, Anacréon, de par son étendue et par le chiffre de sa population, avait de quoi donner le vertige. Suivant à peu près les limites de l'ancienne préfecture d'Anacréon, le royaume comprenait 25 systèmes stellaires, dont 6 comportant plus d'un monde habité. Avec 19 milliards d'habitants, la population était encore très inférieure à ce qu'elle était du temps de l'apogée de l'Empire. Mais elle croissait rapidement grâce au développement scientifique patronné par la Fondation. Hardin, pour la première fois, se rendait pleinement compte de l'ampleur de la tâche qui restait à accomplir. Une tâche écrasante. Au bout de 30 ans, seule la planète capitale bénéficiait de l'énergie atomique. Il y avait dans les lointaines provinces de vastes étendues où l'on n'avait pas encore restauré l'usage de l'énergie atomique, et encore ces progrès n'avaient-ils été possibles que grâce aux vestiges opérationnels que le reflux de l'Empire avait laissé derrière lui, témoignage de son ancienne puissance. Quand Hardin arriva sur Anacréon, ce fut pour trouver la vie normale totalement arrêtée. Il avait bien été témoin de quelques festivités dans les provinces, mais ici, tous les habitants sans distinction prenaient une part active au foisonnement de cérémonies religieuses préludant à la majorité du dieu roi, Léopold. C'est à peine si Hardin avait pu avoir avec Verisov un entretien d'une demi-heure avant que son ambassadeur, hagard et harcelé, ne fût appelé d'urgence pour présider une nouvelle cérémonie. Cette demi-heure fut toutefois mise largement à profit, et Hardin s'en alla fort satisfait se préparer pour le spectacle pyrotechnique prévu à la tombée de la nuit. Il se contentait du rôle d'observateur, car il ne se sentait pas le courage d'affronter les obligations religieuses qui ne manqueraient pas de déferler sur lui si l'on découvrait son identité. Aussi, quand la salle de bal du palais se trouva envahie par la foule chamarrée des plus hauts dignitaires, demeura-t-il dans l'embrasure d'une fenêtre, où l'on ne remarquait guère sa présence. Il avait été présenté à Léopold au milieu d'une longue file de courtisans et à bonne distance, car le roi se tenait à l'écart, fier et solennel, entouré par un halo mortel et aveuglant de radioactivité. Dans moins d'une heure, ce même roi allait prendre place sur son trône. Un ouvrage massif, constitué d'un alliage de rhodium et d'iridium, incrusté d'or et enchâssé de joyaux. Celui-ci s'élèverait alors majestueusement dans les airs avec son auguste charge et glisserait jusqu'au balcon au pied duquel la foule immense des roturiers acclamerait jusqu'à l'apoplexie son souverain. La présence d'un moteur atomique encastré dans la masse et dûment isolé expliquait les dimensions inusitées du trône. Il était 11 heures passées. Hardin se dressa sur la pointe des pieds pour mieux voir. Il réprima son envie de monter sur une chaise. Puis, il aperçut Viennis, qui se dirigeait vers lui à travers la foule. Et il se calma. Viennis progressait lentement. À chaque pas, il lui fallait dispenser quelques mots aimables à un noble seigneur dont le vénérable grand-père avait aidé le grand-père de Léopold à s'emparer indûment du royaume et avait reçu un duché en récompense. S'étant débarrassé du dernier père en grande tenue, il parvint auprès de Hardin. Son sourire se fit plus narquois, et, sous ses sourcils grisonnants, au fond de ses yeux sombres, une lueur de satisfaction brilla soudain. « Mon cher Hardin, dit-il à voix basse, vous devez bien vous ennuyer à vouloir garder ainsi votre anonymat. Je ne m'ennuie pas, Votre Altesse. Tout ce spectacle est extrêmement intéressant. Nous ne voyons jamais rien de comparable sur Terminus, voyez-vous.
Je n'en doute pas. Mais ne voulez-vous pas que nous passions dans mes appartements où nous serons infiniment plus à l'aise et plus seuls pour bavarder ?
Bien volontiers. Bras-dessus, bras-dessous, les deux hommes grimpèrent l'escalier. Et plus d'une duchesse douairière les contempla alors d'un air surpris, en se demandant qui pouvait être cet étranger à l'air insignifiant et au costume si neutre que le prince régent honorait d'une pareille marque d'estime. Dans le cabinet de Viennis, Hardin se détendit enfin. Il s'installa confortablement et accepta avec un murmure de remerciement le verre de liqueur que le régent venait de lui servir en personne.
« Du Locris, Hardin, dit-il, des caves royales. Un grand cru. Il a 200 ans. Il a été mis en bouteille 10 ans avant la révolte de Zéon.
Un vrai breuvage de roi, fit Hardin poliment. À Léopold Ier, roi d'Anacréon. Ils trinquèrent. Après quoi Viennis ajouta négligemment « Et futur empereur de la périphérie. Et peut-être, qui sait, la galaxie se trouvera-t-elle un jour de nouveau unie sous un seul sceptre ?»«
Je n'en doute pas. »
« Le sceptre d'Anacréon ? Pourquoi pas ? »
Avec l'aide de la Fondation, notre supériorité scientifique sur le reste de la périphérie serait indiscutable.
Hardin, qui venait de terminer son verre, le reposa et dit « Certes, à cela près que la Fondation se doit d'assister toute nation qui a besoin d'une aide scientifique. Étant donné l'idéalisme sans faille qui anime notre gouvernement et le noble but que nous a fixé notre fondateur Harry Seldon, nous ne pouvons favoriser personne aux dépens des autres. C'est impossible, Votre Altesse. »
Le sourire de Viennis s'élargit. « Si je puis reprendre un dicton populaire, dit-il, aide-toi, l'esprit galactique t'aidera. Je comprends parfaitement que, de son propre chef, la Fondation n'accepterait jamais pareille coopération.
Je ne suis pas de votre avis. Nous avons remis en état, pour vous, le croiseur impérial, alors que mon conseil de la navigation désirait le garder à des fins de recherche scientifique.
À des fins de recherche scientifique,
répéta le régent d'un ton plein d'ironie.
Mais comment donc ? Et pourtant, vous ne l'auriez pas réparé si je ne vous avais menacé d'une guerre.
Je ne sais pas, fit Hardin.
Moi, je sais. Et cette menace n'a jamais cessé.
Vous voulez dire encore aujourd'hui ?
En fait, il est un peu tard pour continuer à parler de menaces,
dit Viennis après avoir jeté un rapide coup d'œil à l'horloge posée sur le bureau.
Voyons, Hardin. Vous êtes déjà venu une fois sur Anacréon. Vous étiez jeune en ce temps-là. Moi aussi. Mais déjà, nous avions sur toute chose des opinions radicalement différentes. Vous êtes ce qu'on appelle un homme de paix. N'est-ce pas ?
Il faut croire, oui. Je considère en tout cas la violence comme un moyen peu économique de parvenir à ses fins. Il y a toujours de meilleures méthodes, encore qu'elles soient parfois moins directes.
Oui, je connais votre fameuse maxime, la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Et pourtant,
reprit le régent en se grattant négligemment l'oreille,
je ne me crois pas particulièrement incompétent.
Hardin acquiesça poliment sans rien dire.
Et malgré cela, dit Viennis, j'ai toujours été partisan de l'action. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux aller droit au but, sans s'écarter du chemin fixé. Je suis parvenu par cette méthode à de grands résultats, et je compte en obtenir de plus grands encore.
Je sais, interrompit Hardin. Je crois que vous allez effectivement droit au but, et que ce but, c'est le trône pour vous et vos enfants, étant donné le regrettable décès de votre frère aîné et la santé précaire du roi. Car il a une santé assez précaire, n'est-ce pas ?
Le coup avait porté. Viennis fronça les sourcils et sa voix se fit plus cinglante. « Vous auriez intérêt, Hardin, à éviter certains sujets de conversation. Vous vous estimez peut-être le droit, en tant que maire de Terminus, de vous livrer à des remarques, disons, peu judicieuses. Mais si c'est le cas, je vous prie de vous ôter cette idée de la tête au plus vite. Je ne suis pas homme à me laisser effrayer par des mots. J'ai toujours professé que les difficultés s'évanouissent quand on les affronte bravement. Et je n'ai jamais encore tourné le dos.
Je n'en doute pas.
Quelles difficultés vous proposez-vous d'affronter maintenant ?
Je me propose de persuader la Fondation de coopérer avec nous. Votre politique pacifiste vous a amené à commettre un certain nombre d'erreurs gravissimes, simplement parce que vous avez sous-estimé l'audace de votre adversaire. Tout le monde n'a pas aussi peur que vous de l'action directe.
Par exemple ? Demanda Ardine.
Entre autres, vous êtes venu sur Anacréon sans escorte ? Et vous m'avez accompagné dans mon appartement sans escorte ?
Et quel mal y a-t-il à cela ? Ardine jeta autour de lui un regard curieux.
Aucun,
dit le régent.
Sinon que derrière cette porte sont postés 5 gardes armés et prêts à tirer.
Je ne crois pas que vous puissiez partir, Ardine.
Le maire haussa les sourcils. Je n'en ai aucune envie pour l'instant. Vous me craignez donc tant ?
Je ne vous crains absolument pas. Mais cette mesure vous montrera peut-être que je suis fermement décidé. Appelons cela un geste, si vous voulez.
Appelez cela comme bon vous semble, dit Ardine. Je n'entends pas me laisser impressionner par cet incident, quel que soit le nom que vous choisissiez de lui donner.
Je suis sûr que votre attitude va changer avec le temps. Mais vous avez fait une autre erreur, Ardine, et plus grave celle-là. Votre planète Terminus est à peu près sans défense, il me semble.
Naturellement.
Qu'avons-nous à craindre ? Nous ne menaçons personne et nous aidons tout le monde sans discrimination.
Et tout en restant désarmés,
continua Viennis.
Vous avez eu la bonté de nous aider à constituer une armée, et notamment une flotte très puissante, une flotte qui, depuis que vous nous avez fait don du croiseur impérial, est sans rival dans la galaxie.
Votre Altesse,
vous perdez du temps, dit Ardine en faisant mine de se lever. Si vous avez l'intention de déclarer la guerre et que vous m'annoncez cette intention, veuillez m'autoriser à communiquer aussitôt avec mon gouvernement.
Asseyez-vous, Ardine. Je ne déclare pas la guerre, et vous n'allez rien dire du tout à votre gouvernement. Quand nous ouvrirons les hostilités, vous entendez, Ardine, je n'ai pas dit quand nous déclarerons la guerre. La Fondation en sera informée par les projectiles atomiques que déverseront sur elle les unités de la flotte anacréonienne. Sous le commandement de mon propre fils, à bord du vaisseau amiral Viennis, ancien croiseur de la flotte impériale.
Ardine fronça les sourcils. Et quand tout cela doit-il se passer ?
Si cela vous intéresse, les unités de la flotte anacréonienne ont décollé il y a 50 minutes exactement, à 11 heures, et elles ouvriront le feu dès qu'elles seront en vue de Terminus, c'est-à-dire vers midi demain. Vous pouvez vous considérer comme prisonnier de guerre.
C'est exactement ainsi que je me considère, Votre Altesse, dit Ardine, le front toujours soucieux. Mais vous me décevez.
Viennis ricana, méprisant.
Vraiment ?
Oui. J'avais pensé que l'heure du couronnement, minuit, serait le moment rêvé pour donner le départ à la flotte, non ?
Mais vous vouliez déclencher la guerre quand vous étiez encore régent. Dommage.
L'autre solution aurait été plus théâtrale, plus dramatique.
Le régent le fixa d'un air stupéfait.
Par l'espace de quoi voulez-vous parler ?
Vous ne comprenez donc pas ? Demanda Ardine d'un ton suave. J'avais préparé ma parade pour minuit.
Viennis se leva d'un bond.
Ce n'est pas moi que vous allez bluffer. Il n'y a pas de parade. Si vous comptez sur le soutien des autres royaumes, n'y pensez plus. Toutes leurs flottes réunies ne sont pas de taille à lutter avec la nôtre.
Je le sais. Je n'ai pas la moindre intention d'ouvrir le feu. Il se trouve simplement que l'ordre a été lancé la semaine dernière de frapper d'interdit la planète Anacréon à dater d'aujourd'hui minuit.
La frapper d'interdit ?
Oui. Si vous ne comprenez pas ce que cela signifie, sachez que tous les prêtres d'Anacréon vont se mettre en grève, à moins que je n'annule mon ordre. Mais je ne le puis pas, puisque je suis détenu au secret. Et je n'en aurais d'ailleurs pas le désir si j'en avais la possibilité. Il se pencha en avant et ajouta dans un regain d'animation visible.
« Vous rendez-vous compte, Votre Altesse, qu'attaquer la Fondation, c'est tout simplement commettre le plus terrible sacrilège ?»
Viennis faisait visiblement un effort pour se dominer.
« Ça ne prend pas avec moi, Hardin. Gardez ça pour la populace. »
« Mais, mon cher Viennis, pour qui croyez-vous donc que je le garde ? J'ai toutes les raisons de penser que depuis une demi-heure, dans le moindre temple d'Anacréon, une foule s'est réunie et écoute un prêche qui traite très précisément de ce sujet. » Il n'est pas un homme ni une femme sur Anacréon qui ignore maintenant que leur gouvernement vient de lancer une attaque déloyale et non motivée contre le centre même de leur religion.
Mais je vois qu'il est minuit moins quatre.
Vous feriez mieux de regagner la salle de bal pour suivre les événements. Je ne risque rien avec 5 gardes en armes derrière cette porte. Il se carra dans son fauteuil, se versa un nouveau verre de locris et contempla le plafond avec une parfaite indifférence. Viennis, rendu fou furieux, se rua hors de la pièce. Le silence se faisait peu à peu parmi les nobles invités, tandis qu'on s'écartait pour laisser passer le trône. Léopold y avait pris place, les mains solidement appuyées sur les bras du siège, la tête droite, le visage impassible. On avait considérablement diminué l'intensité lumineuse des grands lustres, et dans la clarté diffuse des petites ampoules atomiques multicolores dont on avait enguirlandé le plafond voûté de la vaste salle, le halo royal brillait de 1000 feux, dessinant une couronne rayonnante qui culminait très au-dessus de la tête du souverain. Viennis s'arrêta sur le seuil. Personne ne le vit. La foule n'avait Dieu que pour le trône. Il serra les poings et ne bougea pas. Hardin n'allait pas, par son bluff, lui faire commettre un geste ridicule. Soudain, le trône s'ébranla. Sans bruit, il se souleva et commença à se déplacer parallèlement au sol, à 15 centimètres de hauteur, s'éloignant peu à peu du dais pour gagner la grande fenêtre ouverte. Au moment où la cloche commençait à sonner minuit avec solennité, le trône s'arrêta devant la fenêtre et le halo royal s'éteignit. Pendant une fraction de seconde, qui parut une éternité, le roi ne broncha pas. Privé de son halo, son visage, crispé par la surprise, parut presque humain. Puis, le trône tangua un peu et tomba sur le plancher avec un bruit sourd, en même temps que toutes les lumières du palais s'éteignaient. Dans la confusion qui suivit, couvrant les hurlements de la foule, on entendit Viennis qui criait d'une voix de stentor
« Des torches ! Apportez des torches !»
Se frayant par la force un chemin à travers la foule, il s'approcha de la porte. Des gardes du palais, accourus en hâte de l'extérieur, plongeaient dans l'obscurité de la salle. On finit par apporter des torches, celles-là même qu'on devait utiliser pour la gigantesque retraite aux flambeaux à travers la ville qui devait suivre le couronnement. Les gardes sillonnaient la salle de bal, portant des torchères aux flammes bleues, rouges et verts, dont la lumière insolite révélait au passage des visages affolés.
« Ne vous inquiétez pas !» cria Viennis. « Gardez vos places ! Le courant va revenir !»
Il se tourna vers le capitaine des gardes figé au garde-à-vous.
« Qu'y a-t-il, capitaine ?»
La réponse de l'officier fusa.
« Votre Altesse, le palais est cerné par le peuple. » « Que veulent ces gens ?»
gronda Viennis.
Un prêtre est à leur tête. Nous l'avons identifié, il s'agit du grand prêtre Polyverisov. Il exige la libération immédiate du maire Salvor Hardin et l'arrêt des hostilités engagées contre la Fondation. »
Bien que son ton demeurât impassible, l'homme promenait autour de lui un regard inquiet.
« Si ces canailles tentent de franchir les grilles du palais, réduisez-les en poussière !» s'écria Viennis. « Ne faites rien d'autre pour le moment. Laissez-les hurler. Nous ferons le point demain. »
On avait achevé de distribuer les torches et l'on recommençait à voir clair dans la salle de bal. Viennis se précipita vers le trône, toujours planté devant la fenêtre, et força Leopold, le visage figé par l'effroi, à le suivre.
« Viens avec moi !»
Il jeta un coup d'œil par la fenêtre. La ville était plongée dans les ténèbres les plus absolues. De la place montaient les clameurs rauques de la foule. La seule source de lumière qu'il put apercevoir se trouvait sur sa droite, là où se dressait justement le temple d'Argolide. Poussant un juron, Viennis entraîna le roi. Viennis fit irruption dans ses propres appartements, les cinq gardes sur ses talons. Leopold le suivait, les yeux écarquillés, incapable d'articuler un mot.
Hardin, fit Viennis d'une voix enrouée, vous jouez avec des forces qui vous dépassent.
Le maire ne répondit même pas, et se contenta de rester assis, immobile. À la lueur nacrée de la petite lampe atomique de poche qu'il avait allumée, le sourire ironique qui illuminait son visage était nettement visible. Il est minuit passé. Un nouveau jour commence. Bien le bonjour, Votre Majesté. Mes félicitations pour votre couronnement.
Hardin ! S'écria à nouveau Viennis, ordonnez à vos prêtres de reprendre le travail.
Hardin le toisa calmement. Ordonnez-le leur vous-même, Viennis. Nous verrons bien alors lequel de nous deux joue avec des forces qui le dépassent. À l'heure actuelle, pas un engrenage ne tourne dans tout Anacréon. Pas une lampe ne brille ailleurs que dans les temples. Pas une goutte d'eau ne coule ailleurs que dans les temples. Sur l'hémisphère de la planète où l'hiver règne encore, il n'y a pas une calorie disponible ailleurs que dans les temples. Les hôpitaux n'acceptent plus de malades. Les centrales atomiques se sont arrêtées. Tous les vaisseaux sont cloués au sol. Si cela ne vous plaît pas, Viennis, donnez l'ordre aux prêtres de reprendre leur travail. Pour ma part, je n'en ai aucune envie.
Par l'espace, Hardin. C'est ce que je vais faire. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Nous allons voir si vos prêtres peuvent tenir tête à l'armée. Ce soir, tous les temples vont être placés sous contrôle militaire.
Parfait. Mais comment comptez-vous donner vos ordres? Toutes les lignes de communication sont coupées. Vous pourrez constater que les ondes classiques ne fonctionnent pas davantage que les hyperondes. Le seul appareil encore en état de marche sur toute la planète est ce visiophone que vous voyez ici, et je l'ai arrangé de façon qu'il ne puisse que faire office de récepteur. Viennis ouvrit la bouche, mais en dépit de tous ses efforts, aucun son n'en sortit. Hardin cependant poursuivait. Si vous le désirez, vous pouvez envoyer vos troupes à l'assaut du temple d'Argolide, qui n'est pas loin, et utiliser les installations à ultra-ondes qui s'y trouvent pour communiquer avec le reste de la planète. Mais si vous faites cela, je crains fort que vos hommes ne soient mis en pièces par la foule. Et alors, qui restera-t-il pour protéger votre palais, Viennis? Qui restera-t-il pour protéger vos vies, Viennis?
Bon sang! Nous pouvons tenir,
fit Viennis d'une voix épaisse.
Nous tiendrons! La populace peut toujours hurler et le courant être coupé. Nous tiendrons! Et quand la nouvelle arrivera jusqu'ici, que la Fondation a été vaincue, votre précieuse populace découvrira que sa religion a été édifiée sur le vide. Elle abandonnera vos prêtres, et elle se tournera même contre eux. Je vous donne jusqu'à demain midi, Hardin, parce que vous pouvez peut-être arrêter la production d'énergie sur Anacréon, mais vous ne pouvez pas arrêter ma flotte.
Il exultait, la voix rauque.
« Ils sont en route, Ardine, avec votre grand croiseur que vous avez fait réparer pour nous à leur tête !»«
Le croiseur que j'ai fait réparer ?»« Oui, à ma façon, » répondit Ardine d'un ton badin. « Dites-moi, Viennis, avez-vous jamais entendu parler d'un relais à hyper-ondes ?»«
Non, je vois bien que non. Eh bien, d'ici 2 minutes, vous allez voir à quoi ça sert. »
Il n'avait pas fini sa phrase que l'écran du visiophone s'allumait. Ardine reprit
« Non, d'ici 2 secondes.
Asseyez-vous, Viennis, et écoutez bien. »